C'est un brin d'histoire. Je suis Christian Lacombe et j'aborde la richesse de notre patrimoine régional. Et j'appartiens à plusieurs associations d'histoire locale. Lors de notre précédente émission d'un brin d'histoire, nous avons suivi le parcours de Jacques-Marie Rouzet. C'est un homme sorti du peuple grâce à son intelligence, avocat toulousain, professeur de droit à l'université, conventionnel modéré et député de la Haute-Garonne, qui a été mis en rétention durant la Révolution dans la pension Bel Homme à Paris. Il y rencontre, là, la princesse Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, qui est l'épouse et la veuve de Philippe Égalité. Le couple quitte Paris pour l'Espagne. Mais Rouzet abandonne sa place au Conseil des 500, s'enfuyant sans papier avec sa princesse. Il sera arrêté à la frontière. Nous sommes sous le directoire. Les autorités administratives ordonnent dès lors son enfermement au fort de Bellegarde, près du Pertus. Et après plusieurs heures, la princesse décide de se rendre sur place afin de le faire libérer. On supplie, on pleure, on s'évanouit. Enfin, Rouzet sera libéré. Mais à quel prix ? Jacques-Marie Rouzet doit s'expliquer aussi devant ses pairs sur cette fuite. Il écrit demandant la compréhension des députés parisiens et donc les priant d'accepter sa démission. Mais toutes ces extravagances font la risée du tout Paris. On rapporte ces nouvelles jusqu'à Toulouse par le député Mappel. Toutes ces risées retombent sur la famille Rouzet. On les montre du doigt. D'autant que Jacques-Marie n'a pas essayé de rencontrer sa famille lors de son passage à Toulouse. Arrivé en Espagne, ils vont s'installer dans une maison offerte par le roi Charles VI d'Espagne, qui est un Bourbon, ceci près de Barcelone. Jacques-Marie aménage la vaste maison, abandonnée depuis plusieurs années. On connaît la topographie des lieux et les habitudes de la maison grâce à l'abbé Lambert. Le couple, dit-il, semble connaître des difficultés. Les hôtes ne prennent qu'un repas par jour, servi avec l'étiquette de la cour de France. On n'hésite pas à manger les restes. L'ameublement est bricolé avec des bouts de planches. Les employés et le personnel logent à l'étage et au galetas. La duchesse d'Orléans, malgré son dénuement, nourrit 21 personnes, dont la moitié est inutile au service. L'abbé Lambert indique dans son récit que Jacques-Marie Rouzet a changé de nom. Il devient Jacques-Marie de Rouzet, nom de baron de l'Albigeois et aussi comte de Folmont, du nom d'un seigneur du Quercy dont les lignages sont éteints. Ceci, bien sûr, à la demande de la princesse. Et le roi d'Espagne lui remet également la croix de l'ordre de Malte et grand cordon. Plus tard, il aura aussi celui de Saint-Charles de Naples. Jacques-Marie devient maintenant Santiago de Rouzet de Folmont. Cependant, Marie Rouzet, son épouse, décide de récupérer son mari. Apprenant qu'il vit en Espagne, à Sarria, elle part. C'est une aventure en 1797 et on signale qu'elle est venue, dit-on, plusieurs fois à Sarria. Arrivée à Sarria, Jacques-Marie de Rouzet a changé. Il est vêtu de façon excentrique, redingote rouge, culotte à la française, bas blanc et décoration. Et il se fait appeler Santiago Rouzet de Folmont. Madame Cavignac relate. Madame Rouzet criait violemment contre la duchesse d'Orléans qui lui avait volé son époux. Mais la duchesse se montrait quand même fort aimable et l'invita à séjourner un mois. une certaine cohabitation va se créer entre les trois. Marie Rouzet reviendra désespérée, semble-t-il, vivre avec sa fille. Jacques-Marie devient, lui, maintenant, le gestionnaire des biens de la famille d'Orléans, jusqu'à sa mort. Et ceci malgré les enfants de la princesse, dont n'oublions pas Louis-Philippe, futur roi de France, qui est furieux. Jacques-Marie, en proie quand même à des problèmes de conscience, consécutifs à l'abandon de son foyer, a voulu se racheter et offrir à sa famille une superbe demeure. Ce fut ceci par l'intermédiaire de son frère, qui était à Sainte-Gabelle, et il acheta une maison de maître à Gratins. Cette demeure était la résidence de Hyacinthe de la Roque, gouverneur de Carbone. Il y a encore à Carbone la tour du gouverneur. Il était gouverneur de Carbone jusqu'en 1750. Son fils vendait cette propriété. Il s'agit du domaine de Castet, situé à Gratins. Et là, nous sommes en 1802. Rouzet vient à Gratins pour conclure la vente. Il séjournera au château chez M. de Rouville. Et là, il fait venir un architecte parisien, Maillan, qui décida des modifications à apporter à la demeure, en mettant le style empire. Marie Rouzet refusera ce bien. Et c'est sa fille qui acceptera le don fait par son père, qui maintenant s'appelle Jacques-Marie Rouzet, comte de Folmont. Elle héritera aussi du titre. Nous sommes maintenant en 1807. Les armées de Napoléon envahissent l'Espagne afin de placer son frère Joseph sur le trône. L'armée de Suchet entre en Catalogne et, se sentant en danger, de Rouzet et la princesse déménagent et se réfugient à Figueras. Rouzet se comporte dans cette maison de Figueras comme un chambellan, toujours vêtu d'habits brodés, la poitrine constellée de décorations, et qui reçoit comme à Versailles, offrant des chaises en paille aux visiteurs. La fille de la princesse, Eugénie Adélaïde, que l'on appelle Mademoiselle de Chartres, est âgée de 25 ans. Elle vient les retrouver, et bientôt ne peut plus supporter le comte de Folmont. Elle retournera à Paris au bout d'un mois. N'oublions pas qu'elle sera la même politique de son frère Louis-Philippe. À Figueras, les distractions sont rares. Seuls des émigrés viennent, l'abbé de Saint-Faré, fils naturel de Philippe Égalité, Madame d'Allonville, Madame Cavaignac, Mademoiselle de Villemomble, danseuse à la Comédie italienne. Et le 12 juin 1808, les résistants espagnols attaquent la garnison française de Figueras. Les Français se replient sur le port de San Fernando et effectuent une violente canonnade contre la ville. La maison de la princesse est détruite. Elle se réfugie dans le couvent de Villasacre. De Rouzet, lui, reste sur place, héroïquement, pour sauver ce qui reste des affaires de la princesse. Enfin, le couple se réfugiera à Torroella, près de Gérone. C'est dans cette période qu'Adélaïde de Bourbon envoie une lettre à Madame Rouzet à Gratins. « Votre mari, mon fidèle ami, vient de courir pour moi de nouveaux risques. Je vous témoigne à tous les deux mes sentiments de reconnaissance. » À la fin de l'automne, Rouzet et sa compagne arrivent à Palamos, puis embarque le 12 décembre 1808 pour Tarragone. Les troupes de Suchet seront bientôt là. Alors, ils embarquent à nouveau sur un bateau anglais pour les Baléares. Mais ils sont au bout de leurs ressources. Jacques-Marie a vendu les chevaux, la voiture. La princesse vend ses derniers bijoux. Le 1er janvier 1809, ils débarquent à Minorque. Le gouverneur de Mahon a pitié d'eux. Il les reçoit dans son palais. Le 19 juillet 1810, l'armée française capitule lors de la bataille de Baylen. Là va se jouer alors un épisode de l'histoire de France peu connu, pas connu ou occulté. Volontairement, 5000 prisonniers français sont conduits à pied au port de Cadiz. Maintenus dans des bateaux géoles, ils vont être transférés en captivité sur l'îlot rocheux de Cabrera, à 17 km au sud de Majorque. Ceci après 4 mois de navigation dans des conditions déplorables. Les prisonniers français, sans eau ni nourriture, seront abandonnés. Ceci, c'est le premier camp de concentration de l'histoire moderne. Il y aura de nombreuses victimes. Et Rouzet, très en colère de ce geste, non conforme aux règles militaires, interviendra auprès du roi d'Espagne par l'intermédiaire de la princesse Adélaïde de Bourbon. Il réussira à faire évacuer 800 prisonniers qui seront amenés vers l'Angleterre, où ils seront mieux traités. Rouzet restera marqué par cet abandon tragique des autres prisonniers. On comprend dès lors pourquoi, en 1847, le petit-fils d'Adélaïde de Bourbon, le fils de Louis-Philippe, le prince de Joinville, viendra sur cet archipel, oublié de tous, pour faire ériger un mémorial à la gloire des prisonniers français morts à Cabrera. À Mahon, le couple reçoit les amis et Louis-Philippe vient voir sa mère. Le futur roi de France ne supporte pas la présence de cet intrus qu'est le comte de Folmont, qui gère les affaires de la maison d'Orléans. Il n'arrive pas à s'entendre. Et la duchesse paraît complètement asservie à l'ex-député républicain et le fait toujours asseoir à côté d'elle. Sur l'évolution politique de Rouzet, ou du comte de Folmont, nous n'avons guère à hésiter. Voici ce qu'il dit. « Je ne cache pas qu'hier, j'ai été démocrate et qu'aujourd'hui, je désire ardemment voir Louis XVIII sur le trône de France. » Peu de temps après, le couple va rejoindre le royaume de Naples. Puis, ils sont là aussi chassés par la présence des troupes napoléoniennes. Ils se réfugient en Sicile. Ils ne rentreront en France qu'après 17 ans d'exil. Le 2 juillet 1814, et ils ne seront pas inquiétés durant les 100 jours. Le couple rentre à Paris, à Ivry, au château de Laine, aujourd'hui disparu. Jacques-Marie Rouzet, ou Jacques-Marie de Rosé, comte de Folmont, meurt le 26 octobre 1820, âgé de 77 ans. Il laisse la duchesse de Bourbon-Penthièvre effondrée. Elle écrira aussitôt à Marie Rosé, qui résidait à Gratins chez sa fille au domaine de Castette, dans cette fameuse propriété de 200 hectares, la duchesse écrira et préviendra Madame Marie Rouzet de ce décès. La duchesse de Penthièvre, veuve de Philippe Égalité, mourut le 23 juin 1821. Elle sera inhumée dans la chapelle royale de Dreux, qu'elle fit construire pour enterrer tous les membres de la famille d'Orléans, et notamment réunir les restes des parents guillotinés pendant la Révolution. Louis-Philippe fera agrandir ce mausolée, mais n'obéira pas aux dernières volontés de sa mère, qui était de placer le gisant du comte de Folmont auprès d'elle. Il relégua le cercueil de Rouzet dans une cavité sombre du monument. Mais en fait, il y est toujours. La fille de Jacques-Marie Rouzet et de Marie Rouzet née Hébrard mourut en 1847 et est bien enterrée au cimetière de Gratins. Nous avons retrouvé sa tombe et nous ne savons pas s'il y a eu de la descendance. Tout ce travail de recherche a été méticuleusement effectué par Georges Argel, ancien président de l'Association d'Histoire et Tradition de Carbone. Ceci à partir de cette fameuse tombe des Hébrards qui est au cimetière de Gratins. Et il a remonté toute cette histoire qui lui a demandé plusieurs années de recherche, d'archives historiques, généalogique, notarial, qui se poursuivent et dévoilent chaque jour de nouvelles informations sur Jacques-Marie Rouzé, alias Jacques-Marie Rosé, comte de Folmont. Retrouvons-nous très vite, si vous le voulez, pour un autre brin d'histoire sur Radio Galaxie 98.5.